Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Bienvenue, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Et puis on peut vous lire chaque mois désormais dans une chronique publiée dans le magazine Forbes. Pierre-Henri de Menton, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge. À la une de Challenge cette semaine, désordre au pluriel, jusqu'où ira la CGT, avec juste en dessous une photo de Philippe Martinez qui vit, vous savez, ses derniers mois comme secrétaire général du syndicat. Rafik Smati, bonjour.
Bonjour.
Chef d'entreprise dans le digital et vous êtes également le fondateur d'Objectif France, une formation à vocation politique. Voilà ce qui a été annoncé. 7 milliards d'euros mobilisés en 2023. Somme correspondant exactement aux recettes exceptionnelles qui viendront de la contribution des fameux super profits. Vous savez qu'ils ne sont pas taxés. Ils contribuent pas au moyen d'une taxe, mais au moyen du prélèvement sur la rente inframarginale. En tout cas, tous les producteurs d'énergie hors gaz vont bel et bien contribuer à hauteur de 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires qui donc sera, cette recette, affectée à l'indemnisation d'une partie de la facture des entreprises françaises. On vise jusqu'à 50% de prise en charge par l'État pour l'ensemble des mégawattheures qui sont achetés au prix de marché lorsque ce prix de marché est supérieur à 325 euros, le mégawattheure. Ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous de 325 euros reste totalement à la charge de l'entreprise et tout ce qui dépasse 325 euros pourra en partie être pris en charge par l'État. Évidemment, les TPE a priori sont protégées puisqu'elles bénéficient du tarif régulé comme les consommateurs, comme les ménages. On vise les PME. Il faudra faire attention qu'il n'y ait pas un effet de seuil qui exclut les ETI, donc les entreprises de 250 à 5000 personnes qui sont quand même le cœur vraiment puissant du tissu productif français. Voilà. Rafik Smati, est-ce que vous accueillez avec satisfaction le fait que la situation des entreprises, on l'a décrite dans cette émission. Sylvain Aurébi, il y a 5 jours, nous disait qu'il avait payé 150 000 euros d'électricité en 2022. Il avait dû signer le renouvellement de ses contrats fin septembre, parce que de toute façon, il ne pouvait pas se permettre d'attendre des accords européens. 650 000 en 2023, euros d'électricité. C'est quand même pas l'épaisseur du trait. Est-ce que vous considérez que il fallait passer à l'acte pour les entreprises et que c'est bien ?
Évidemment, mais je vais surtout vous dire pourquoi. Vous savez, moi j'ai créé ma première entreprise, j'étais étudiant, j'avais 23 ans, ça fait donc plus de 20 ans que je suis entrepreneur. Et depuis que je suis entrepreneur, je ne me suis jamais posé la question de ma facture d'électricité. Vous savez, quand on fait des business plans et qu'on n'est pas dans une industrie lourde, l'électricité c'est souvent ce qu'on met dans les autres frais, une somme symbolique, et ce n'est jamais un sujet. Eh bien, pour la première fois depuis ma vie d'entrepreneur, je m'intéresse à ma facture d'électricité parce que ça n'est plus une simple somme anecdotique.
On n'est plus sur les frais généraux.
Ça devient un vrai sujet. Et ça, c'est valable dans une PME, c'est valable pour le boulanger, c'est valable pour un artisan, c'est valable pour tout le monde.
Ah, on a vu les boulangers qui ouvrent une heure plus tard pour économiser une heure de four. C'est quand même des trucs...
Absolument. Donc il y a un vrai sujet qui est majeur. Alors après, et c'est ça qui est intéressant, j'entends dire que finalement on n'a pas d'autre choix que de donner des aides aux PME. C'est pas vrai. Les entreprises peuvent très bien s'en sortir. Comment? Et c'est ça qui est intéressant. En augmentant leurs prix. Parce que quand on a des charges supplémentaires, on peut toujours augmenter les prix.
Ah bon, on peut toujours. Il y a des limites, Rafik Smati. Moi, j'ai payé une baguette 1,50€, j'ai déjà été frappé. Je pense qu'à 80, ils ne la vendront plus.
Mais justement, c'est là où j'allais en venir. C'est-à-dire que, au final, c'est toujours le client qui paye. Sauf qu'à un moment donné, alors ça peut vous poser des problèmes de compétitivité par rapport à vos concurrents. Sauf que dans un marché européen où l'énergie monte de toutes parts, la question de la compétitivité relative, elle se pose moyennement.
Je vois, oui.
En revanche, il y a un sujet macroéconomique qui se pose, c'est que si j'augmente mes prix, je contribue à faire avancer l'inflation, et c'est précisément ce que l'on veut absolument éviter aujourd'hui. Donc, finalement, les mesures qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement, elles ont évidemment une vertu microéconomique, et quand on est un patron de PME, on accueille ces mesures-là de manière très, très bienveillante, parce que c'est évidemment nécessaire, mais ça aussi, et de mon point de vue, peut-être même surtout, une valeur macroéconomique, parce que ça va permettre de limiter les effets de l'inflation, et ça va permettre d'éviter à nos entreprises d'augmenter leurs prix, sachant que, et c'est mon pari depuis le début, c'est que je suis convaincu que nous vivons une période relativement transitoire. Alors, transitoire, ça peut être 1 an, 2 ans.
Tous les chefs d'entreprise me disent ça.
Et que nous sommes à l'aube d'un nouvel âge d'or pour plein de raisons, révolution technologique, révolution numérique, etc. Et que ceux qui rafleront la mise, ce sont ceux qui auront le mieux géré cette période de transition et ce sont ceux qui auront le mieux jugulé les effets de l'inflation. C'est la position qui est la mienne. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que je sois extrêmement libéral et malgré le fait que je sois profondément attaché à la liberté d'entreprise et à un État qui est réduit à sa plus simple expression, eh bien j'affirme que pour ce coup, pour le quoi qu'il en coûte, notamment budgétaire, le bouclier tarifaire, etc., il est à sa place. Parce que c'est ce qui permet aujourd'hui à la France d'avoir une inflation qui est inférieure à celle des autres pays européens. C'est ce qui permet d'avoir une consommation qui ne s'effondre pas. Et c'est ce qui nous permettra demain, j'en suis certain, et à nos entreprises, d'être compétitifs sur des marchés émergents dans la nouvelle révolution technologique qui fait que la France pourra s'imposer et rafler la mise. C'est ça l'enjeu aujourd'hui.
Non, mais vous n'êtes pas le premier, effectivement, à saluer les choix budgétaires qui ont pu être faits par la France plutôt que les autres pays et qui ont permis de tenir cette inflation, d'éviter la boucle prix-salaire. Mais là, vous voyez, je vous donnais la facture des TECUSMI. Quand vous êtes sur des factures qui explosent, c'est pas on prend 5%. Non, c'est des factures qui font des fois 3, fois 4, fois 5. C'est Laurent Wronski nous tenait le même discours. Il y a une forme d'urgence. Après, j'entends très bien ce que vous dites. Anne-Sophie, par rapport à ce qu'a dit Rafik Smati, et là, on est sur des faits, il y aura 7 milliards d'euros mobilisés en 2023 pour les entreprises.
Donc, en effet, macroéconomiquement, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est la question du montant. Parce que je pense que ce sera assez faible, malheureusement. Quand on regarde par rapport à l'évolution, notamment des taux de marge, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a cette année quand même 2 points en moins par rapport à l'année dernière. Même si, bien évidemment, il faut faire attention parce qu'on avait les effets de quoi qu'il en coûte. Donc, il faut plutôt regarder par rapport à 2019. Mais on voit qu'on a vraiment quand même une tendance à rogner, même si on a des très fortes dichotomies entre les secteurs. Et l'autre élément, c'est qu'en effet, les hausses sont absolument énormes. Donc, c'est vrai que là, c'est pas l'épaisseur du trait ou c'est même pas la répercussion des prix qui pourront on va dire absorber ça, c'est beaucoup plus important. Ça peut aussi durer avec des fluctuations qu'on attend quand même, notamment encore au premier trimestre de l'année prochaine. Même si on s'attend à une baisse du pétrole, on aura quand même une augmentation qui va continuer sur le gaz et sur l'électricité. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des hausses.
C'est pas si sûr, Sophie Alsif, qu'on ait vraiment la tendance perpétuelle de hausse des prix
quand
du gaz.
Quand on regarde par rapport à ce qui s'est passé après le Covid, voilà, il faut quand même regarder ce qui s'est fait avant pour comprendre aussi ce qui va se passer. Donc en tout cas, il y a une probabilité. Donc c'est vrai que ça paraît peut-être pas assez. Et la difficulté, c'est qu'on a quand même des entreprises qui sont assez endettées. On l'a vu avec le Covid, on a eu des PGE, même si beaucoup n'ont pas été utilisées, il n'y a pas forcément de problème de financement. Là, beaucoup d'entreprises pensent à peut-être de nouveau se réendetter. Et l'idée, c'est que si on est dans un contexte, on le voit l'année prochaine, de très fort ralentissement de la croissance, donc il y aura beaucoup moins de demandes. On ne peut plus jouer l'effet prix, parce que les consommateurs vont plutôt épargner et voire moins consommer. Et ce qui peut se passer, le risque, on le voit comme en Allemagne, c'est pour ça qu'ils ont dégainé le fameux 200 milliards d'euros, c'est qu'il y ait juste des arrêts de production. Et c'est ça, en fait, vraiment qui fait excessivement peur, c'est qu'on ait juste l'appareil productif qui s'arrête en disant, ça me coûte vraiment trop cher de produire, je ne peux pas répercuter sur mes prix, et en fait, l'année prochaine, j'ai une demande qui baisse, donc c'est beaucoup mieux d'arrêter. Et là, vous avez vraiment une spirale récessionniste qui peut être dangereuse. Donc, à mon sens, c'est ça qu'essaie d'éviter le gouvernement, mais malheureusement, je pense que la proportion des 7 milliards est un petit peu basse.
On verra comment ça se passera. Alors, sur l'histoire de répercuter sur les prix, je me souviens du témoignage de Jérôme Dédéian, qui, vous le savez, au-delà de ses activités sur la gestion de patrimoine, a pris sous son aile une petite confiturerie artisanale en Bretagne. Et ben, il me dit qu'il est arrivé au maximum de l'effet psychologique du prix. Il est à 9 euros le pot. Alors, c'est de la très bonne confiture, tout est parfait, fait à la main. Ah oui, mais 9 euros, il y a un moment, si vous passez les 10 euros, vous ne vendez plus un pot. Donc, l'élasticité prix, elle peut connaître ses limites. Pierre-Henri, par rapport à ce qu'on a dit et sur cette info du début de semaine où l'État qui disait, enfin en tout cas Bercy qui disait non, il n'y aura pas de bouclier entreprise, nous n'aurons pas les moyens, à trouver ce mécanisme, alors à la tuyauterie, prendre en partie en charge ce qui dépasse 325 euros du mégawattheure, bon, peut-être pas être super simple, mais...
Voilà, alors bon, ça va être compliqué. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a actuellement une quarantaine d'usines à peu près en France qui ont arrêté pour des raisons de coûts. Et qu'il y a une compétitivité sur ces usines, puisque vous allez aux États-Unis, par exemple, on n'a pas du tout le même problème. Donc, effectivement, dans les allocations d'actifs d'investissement, ça peut avoir un impact. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'on revient, en fait, on a eu une sorte de bascule dans le quoi qu'il en coûte, puisque pendant le Covid, on avait mis le paquet sur les entreprises, avec les PGE, etc., PGE qui ne sont pas des subventions, mais ça a été décalé et tout. Et là, on revient, on est reparti sur les ménages, ensuite, avec des chèques pour les ménages, notamment à la pompe. Et là, on revient des entreprises dans l'épaisseur du trait, hein, parce qu'effectivement, 7 milliards pour l'ensemble de l'appareil productif français, c'est pas beaucoup. Juste, ça peut paraître anecdotique, mais il est certain qu'il faut que, c'est ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est qu'il faut que les entreprises prennent conscience que l'électricité, l'énergie, ça a un coût.
Alors je crois c'était que là, le cas. Tout le monde s'en rend compte de manière assez vive.
Oui, mais vous promenez, ça m'est arrivé récemment, vous promenez à la Défense. Le soir, tard,
continue à avoir
toutes les tours sont allumées. Si vous voulez, on marche sur la tête. Donc il y a un effort à faire quand même, même dans les process, etc., que les entreprises qui ont leur propre process, leur propre bureaucratie, n'arrivent pas peut-être à aller assez vite pour suivre. Dernière chose sur le prix de l'énergie, il y aurait qu'il baisse. Hein, le prix du gaz est en train de baisser là depuis quelques séances.
Objectivement, voilà. Voilà.
Bon. Alors du coup, c'est très bien s'il y a un prix, hein, c'est pas automatique non plus comme par exemple pour la prime à la pompe pour les particuliers, hein, où quel que soit le prix de l'essence, on offre un discount de 20 ou 30 centimes.
Si on est sous 325 euros, ben le dispositif des 7 milliards ne sera pas déclenché. Donc,
ce que vous disiez, c'est très intéressant. Vous faisiez référence autour de la Défense qui restait allumée, etc.
C'est symbolique, mais franchement, ça frappe tout le monde.
C'est effectivement très intéressant. Et aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans toutes les entreprises, dans la mienne, mais comme dans toutes les entreprises que je connais, il y a une logique de... On est tous en train de mettre en place un plan de sobriété énergétique, tous, à différents niveaux. Mais ce que je trouve de très intéressant, et je peux vous le dire s'agissant de mon entreprise, c'est que ce plan, il est irréversible.
Quel plan
Notamment, la manière dont on fait fonctionner nos machines.
De vivre autrement.
Fait de vivre autrement. C'est irréversible, parce que finalement, on s'est comporté, depuis des années, dans une certaine forme d'abondance évidente, où on ne se posait jamais la question de la consommation d'électricité, et aujourd'hui, on se la pose. Et les décisions que nous prenons aujourd'hui, des décisions de consommation très simples, très primaires, sont des décisions sur lesquelles nous ne reviendrons pas, y compris si l'électricité devait revenir à 40 euros le mégawattheure. Et c'est ça qui est intéressant dans la crise que nous traversons, et je crois en vertu des crises, dans le sens où elles permettent de changer les choses durablement. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Derrière ces moments difficiles que nous expérimentons, derrière ces factures qui sont en train de bondir, est en train de s'installer un nouveau rapport à l'énergie, un nouveau rapport à la consommation, et probablement un nouveau rapport à la production. Et ça, c'est très intéressant, c'est irréversible, et c'est génial.
Mais les fédérations qui me dit qu'à la Défense, c'est allumé pour des raisons de sécurité.
Voilà. Les fédérations professionnelles sont parfois un peu, je pense par exemple au commerce, il y a eu un petit lobby pour retarder, vous savez, les arrêtés municipaux pour éteindre les vitrines après une certaine heure. Et dans le même temps, naturellement, on va demander de l'argent à l'État. Donc, il faut qu'il y ait une grande cohérence dans cette... politique, on va dire, de sobriété énergétique, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est un peu normal, parce que c'est arrivé très vite tout ça, il faut que les choses se mettent en place.
Bon, après, il y a plein d'auditeurs qui disent, oui, mais c'est bien joli, mais on s'endette. Et... Oui. Un peu moins.
Pas beaucoup, hein, 7 milliards.
Non, alors en l'occurrence.
On s'est habitué
à plus.
L'un des éléments...
Bon plan, c'est 100 milliards d'habitude.
Oui, oui. L'un des éléments qui m'a poussé quand même à considérer que c'était... Enfin, en tout cas, ce choix politique annoncé vendredi, confirmé dimanche, était défendable. C'est que les 7 milliards, c'est de l'argent qui vient de la contribution des fameux super profits, donc de l'ensemble des producteurs d'énergie hors gaz. C'est pas des titres qui vont être émis par l'agence France Trésor pour aller récupérer cet argent sur les marchés. Après, c'est vrai que je me suis dit que, comme vous, Anne-Sophie, le montant, en fonction de ce que l'on va vivre, mais on verra quand même sur le prix du mégawattheure exactement ce qui se passera, parce que regardez aujourd'hui le prix du fret maritime. Qui a été divisé par... Il reste élevé, mais on a été divisé par 4 en l'espace de relativement peu de temps. Les métaux industriels aussi, on commence à retrouver des... Voilà.
Et jamais vraiment comme on pense que ça va se passer.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous les chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau me disent « Non, mais vous inquiétez pas, en 2023, il y a plein de postes sur lesquels on va retrouver une vie à peu près normale.
Et c'est en ça que l'endettement se tient. C'est-à-dire que
l'endettement du pays ou des entreprises ?
Les deux. C'est-à-dire que si on était dans une phase où on se posait la question collectivement de qu'est-ce qu'il y aura après cette crise, avec un blues généralisé, avec une absence d'innovation, etc., oui, ça serait extrêmement inquiétant. Mais si on part du postulat, ce que je crois intimement, que cette révolution technologique, cette quatrième révolution industrielle va tout métamorphoser notre rapport à l'économie, à la santé, au travail, à la mobilité, etc., eh bien, dans ce cas-là, le fait de ménager nos arrières aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait que nous raflerons la mise demain. Il faut vraiment que nous soyons conscients de ça.
C'est un peu la thématique du du livre de François Langlais, là, il était invité ce matin de la matinale de BFM Business, l'idée qu'on vit un moment très particulier d'où la France pourrait sortir grandie.
Bon. Après, juste pour nuancer sur l'inflation, la grande difficulté, c'est qu'il y a vraiment l'aspect très psychologique. Donc justement, comme on ne sait pas combien demain on va payer, que ce soit pour les ménages ou les entreprises, on a ou tendance à surépargner, on le voit pour les ménages, ou pour les entreprises, en effet, à être méfiance, notamment en termes d'investissement. Et là, on commence déjà à le voir dans les chiffres au niveau macro. Donc c'est ça, en fait, la difficulté par rapport, on va dire, à une crise classique comme on a eu avec le Covid, c'est qu'on a vraiment un problème d'anticipation et de manque de confiance qui est là tant qu'il y aura de l'inflation. Et bon, quand même, l'année prochaine, on risque d'en avoir encore.
Ça m'amène à vous faire réagir tout de suite sur ce chiffre, Anne-Sophie. Les 500 milliards d'euros de collecte du livret A et du LDDS, bon, on n'avait jamais franchi un tel montant. Évidemment, c'est symbolique. Mais la dynamique du livret A qui n'est rémunéré qu'à 2%. Qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre ?
C'est toujours le problème de l'aversion au risque, hein, qui, justement, on préfère payer pour être sûr de garder ses économies, plutôt qu'en effet d'investir dans des choses qui seraient peut-être plus rentables. Donc, c'est assez intéressant, parce que nous, on regarde beaucoup ce chiffre, justement, pour faire les anticipations, notamment de consommation, et en le croisant par rapport à toutes les enquêtes ménages. Il y a vraiment l'idée que, voilà, avec l'inflation, on ne sait pas comment sera impacté le pouvoir d'achat. Et même si on dit qu'il y aura des aides, des boucliers, etc., quand vous regardez les enquêtes, il y a vraiment l'idée que le pouvoir d'achat va être encore impacté négativement l'année prochaine.
Il le sera. Beaucoup moins s'il n'y avait pas les boucliers.
Beaucoup moins, exactement. Mais en tout cas, donc ça, c'est vraiment intégré. Et on le voit au niveau des taux d'épargne. Hein, c'est vrai qu'on est à plus de 16%. Donc on voit qu'on est
à 16%.
On est vraiment à un niveau... On s'attendait cette année plutôt à avoir une année encore de désépargne, puisque 2022, c'était encore la reprise post-Covid. Donc on s'attendait plutôt le retour à 14%. Puis là, on est toujours à ce niveau-là. Donc ça veut dire que les anticipations des agents sont quand même assez négatives. Et c'est plutôt ça qu'il va falloir regarder, puisque c'est vrai qu'en France, on est toujours sur le moteur de la consommation. Donc ça, c'est quand même un élément,
C'est pas du tout les mêmes montants, et c'est un peu anecdotique, mais ce qui est amusant, c'est que dans le même temps, on voit les investissements des Français en direct à la bourse, qui n'ont jamais été très importants, qui sont littéralement effondrés.
Oui, absolument.
Donc il y a vraiment une aversion au risque. Et je rappelle que 2%, on a des taux d'intérêt réels négatifs, quand même, quand on compare à l'inflation.
Bien sûr.
On perd 3% à peu près.
Oui, le nombre de boursicoteurs actifs en France a chuté de 35% au troisième trimestre 2022. C'est le plus bas niveau depuis 3 ans. C'est un chiffre qui a été publié par l'AMF. Il y a cet éditeur qui s'appelle Liliane Rafiksmati a raison. C'est son le catastrophisme. Cette crise énergétique est une formidable opportunité pour adopter des comportements plus vertueux. Je suis persuadé qu'on accélère la transition énergétique comme on l'aurait jamais imaginé.
Vous évoquiez les 500 milliards qui étaient épargnés par les Français.
Uniquement livré à LDDS.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Évidemment, que ce soit au niveau des particuliers comme au niveau des entreprises. Mais vous savez, moi je profite précisément de la tribune que vous m'offrez pour dire que oui, effectivement, la situation est difficile, mais ne perdons pas de vue, parce que l'économie c'est aussi une affaire de prophétie autoréalisatrice. Perdons pas de vue que malgré toutes les turbulences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous avons peut-être la possibilité du meilleur, non pas à 50 ans, mais à quelques mois ou quelques années. Et quand nous traversons ces crises, on ne doit perdre pas cette vue, absolument, parce que c'est ce qui fait qu'on s'en sortira mieux que les autres.
Bonheur est peut-être au bout du tunnel.
Rapport à ça, je vais être l'avocat du diable.
Allez-y, on marque une pause bientôt.
Faut que je regarde un peu aussi par rapport à ce qui s'est passé avant et par rapport au Covid. C'est vrai que ce qui joue et souvent ce qui accélère la transition, c'est vraiment l'effet prix. Et c'est vrai qu'on voit que souvent la crise, et derrière nous on l'avait avec le Covid, on avait tellement de bonnes intentions, et bien c'est vrai que quand l'effet prix n'existe plus, on a tendance à avoir une reconsommation assez importante dans tous les secteurs, bien sûr, loisirs, voyages, etc. Et donc ça, c'est vrai qu'on le voit, bon, pas que la crise du Covid, et puis en plus, c'est souvent encouragé par les gouvernements, parce qu'il y a
tous les économistes rebond, le disent, Anne-Sophie.
Cet effet rebond, relance, qui profite bien sûr à la croissance.
L'énorme défaut de ce que l'on a mis en place, c'est qu'effectivement, on casse l'effet prix sur une ressource énergétique que l'on voudrait voir se tarir. Et donc, si on l'encourage d'une certaine manière, il n'y a aucune raison qu'elle se tarisse. Mmh. Et après, est-ce qu'on peut laisser des prix faire du x4, x5, x6?
Non, non.
Bon, bref. Après, quand on regardera la séquence dans le rétroviseur, on se dit, bon, on pourra essayer de voir.
On est très modéré. Hein. Le plan allemand est quand même beaucoup, beaucoup plus. Les milliards déversés sur les entreprises sont beaucoup, beaucoup plus importants. Donc là, il y a un effet compétitivité. On disait avec les États-Unis, puisqu'ils n'ont pas moins de problèmes, on va dire, de prix de l'énergie. Et vis-à-vis de l'allemand, qui est quand même notre premier partenaire. Donc c'est compliqué de de ne rien faire.
On marque une pause. Dans un instant, je vous livrerai une idée là, qui circule, l'Institut Montaigne, qui propose quelque chose pour essayer d'améliorer l'emploi des seniors. En fait, le taux d'emploi, c'est à la fois l'emploi des plus jeunes, qu'ils rentrent plus tôt dans l'emploi, et l'emploi des plus âgés, qu'ils restent davantage dans l'emploi. C'est une question qui est totalement sous-jacente à cette fameuse réforme des retraites. Bon, vous me direz ce que vous pensez de cette solution. Bon. Après, ils ont fait 16 propositions. Hein. Donc, on retrouve d'ailleurs des vieilles idées, un contrat d'embauche senior. Il y avait déjà eu des contrats d'embauche par le passé. Ou la fin des pré-retraites UDEDIC. À tout de suite.